Quand les évangélistes racontent l'épisode de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, ils font allusion à plusieurs textes de l'Ancien Testament. L'entrée triomphale du Christ est décrite comme une reprise, si je puis dire, une transfiguration d'entrée triomphale du roi de Jérusalem, David d'abord, Salomon ensuite. Un de ces récits évoque, parce que dans l'évangile que nous avons entendu, nous voyons que Jésus descend du mont des Oliviers pour traverser la vallée du Cédron et remonter dans la ville sainte de Jérusalem. Et en même temps, on voit qu'il est monté sur un ânon. Et les mots qui sont utilisés ont une signification. Vous avez compris qu'il y a déjà, ça évoque la descente et la remontée, qui sont déjà la préfiguration de la descente dans le royaume de la mort et de la remontée, de la résurrection, de l'ascension. Mais la descente, dont il était question avec Salomon, c'est lorsque Salomon, avec sa cour, est descendu aux sources du Guion. Ce qui ne peut pas ne pas évoquer non plus les eaux vives, donc le baptême. Et les évangélistes veulent de cette manière-là évoquer, montrer que Jésus est le nouveau Salomon, le roi sage. Et le roi sage qui est pacifique, voilà le mot que je cherchais, est pacifique, qui devait entrer à Jérusalem. Et la procession, la descente que fait le Christ du mont des Oliviers dans la vallée du Cédron pour remonter à Jérusalem dans le temple, qui est normalement sa demeure, puisqu'il est Seigneur, puisqu'il est Dieu, et que le temple est fait pour abriter la présence de Dieu. On sait qu'il en a été rejeté, mais enfin, c'était tout de même sa demeure. Cette descente et cette remontée sont évoquées par celle de Salomon. Salomon n'était lui-même qu'une préfiguration, qu'une figure de celui qui devait venir, le véritable Messie. Et pour qu'on ne se trompe pas, à l'époque où Jérusalem, la Terre Sainte, était dominée par les... et occupée par les Romains, pour qu'on ne se trompe pas sur la marche triomphale de Jésus, qui est acclamé par les enfants des Hébreux, les fils de Jacob, qu'il l'acclame avec en portant des branchages en signe d'allégresse. Qu'on ne se trompe pas sur le sens de ce triomphe, alors que les Romains célébraient aussi des triomphes à leurs généraux, à leurs empereurs, lorsqu'ils revenaient victorieux d'une campagne et qu'ils remontaient la Via Sacra jusqu'au Capitole, comme nous le savons et que nous avons souvent suivi le tracé. Mais ça, c'est une gloire humaine. Et tous télescopes, je pensais aussi, il y en a qui ont laissé la vie, je pense à Vercingétorix par exemple, et à d'autres comme ça. Mais c'est un autre aspect de l'histoire. Et pour qu'on ne se trompe pas sur la signification de ce triomphe, Jésus montre qu'il ne vient pas en triomphateur humain, en roi social, si je puis dire, un roi politique, mais le roi, il vient comme roi d'un autre royaume. C'est la raison pour laquelle il monte sur, non pas sur un cheval, mais sur un ânon, c'est-à-dire sur un animal qui avait pour porter du poids, un animal de travail, et non pas un animal noble. Et en plus, non pas sur l'ânesse qui est en âge de porter du poids, mais sur un ânon qui n'a encore rien porté, de manière à montrer que Jésus ne peut s'asseoir que sur quelque chose de pur, de vierge. Il est hors de notre commune nature étant Dieu. Et en plus, en prenant de cette manière-là un ânon, le Seigneur montre qu'il est le maître de la création. Comme au début de la création, l'homme domestiquait le monde, domestiquait aussi les animaux. C'est ainsi que le Christ domestique lui-même, l'ânon, qui pour la première fois sert à quelque chose. Et le résultat, pas le résultat, mais la scène à laquelle nous assistons est une scène de triomphe. Parce que Jésus a ressuscité Lazare quelques jours auparavant, les foules entières l'acclament et on parle de lui. On sait qu'il a fait des miracles, il a multiplié des pains à plusieurs reprises. On sait qu'il a guéri des lépreux. On sait qu'il a chassé des démons. On sait toutes les merveilles qu'il a faites. Et on sait aussi, parce qu'on n'est pas complètement sots, on sait aussi qu'il a dit des belles paroles, qu'il a annoncé un autre royaume. Et c'est ce royaume-là que les descendants de Jacob veulent. C'est pour ça qu'ils l'acclament, même si demain ils vont se retourner contre lui. Et pour l'instant, c'est cela qu'ils veulent, c'est cela auquel ils adhèrent. Et à cause de toutes ces merveilles et toutes ces paroles qui viennent de l'au-delà, tout le monde le suit en masse. Tout le monde l'acclame. Et je vais vous dire que les temps se sont bien perdus. Vous ne devriez pas vous dire à ça, vous les 60 qui êtes là aujourd'hui. Vous représentez les autres. Mais regardez comme nos églises sont vides. Qui sommes-nous 60 personnes? C'est bien pour les 60. Mais alors que ça fait 2000 ans que Jésus est venu parmi nous, alors qu'il a fait tant de miracles quand il était là et qu'il continue à en faire. Qui vient aujourd'hui pour l'acclamer? Qui vient lui faire une escorte royale? Qui le prend véritablement pour un roi de paix et de sagesse? Aujourd'hui, on met notre honneur à ne pas trop le suivre. On met notre honneur à pas trop le pratiquer, à pas trop pratiquer sa présence, à pas trop chercher sa présence. Une fois encore, je ne dis pas ça pour vous, vous êtes la preuve du contraire. Mais autre est l'attitude générale, autre l'attitude du petit reste, sur lequel, qui est un thème déjà de l'Ancien Testament, le petit reste, c'était les quelques-uns qui restaient fidèles à Dieu dans l'Ancien Testament, les pauvres selon Dieu, et qui ont accepté, qui ont reconnu, qui attendaient, qui ont reconnu la venue du Sauveur. Donc vous êtes aussi parmi ceux-là, et Dieu le voit. Mais je vais évoquer autre chose, je vais évoquer notre lassitude, notre manque d'enthousiasme à suivre celui qui est et qui se présente à nous comme notre roi. Mais comme ça a toujours été, nous attendrions, nous, un roi monté sur un cheval et non pas un roi monté sur une ânesse ou sur le petit d'un ânon. Non, sur le petit d'une ânesse, pardon. Nous attendrions un roi extraordinaire. Il est extraordinaire, mais il est humble. Nous attendrions un roi puissant, mais nous avons un roi qui pardonne. Nous attendrions un roi qui fasse des prouesses extérieures, qui obéisse en quelque sorte à nos caprices. Et c'est un roi qui s'humilie jusqu'à notre condition, partageant notre condition, mais suscitant à l'intérieur de nous-mêmes une transformation, un repentir. Vous savez, ceci est un phénomène qui existe depuis les origines du christianisme. Mais dans notre histoire moderne, si je puis dire, cela revêt un caractère assez particulier. Disons que je parle pour le monde latin, le monde occidental, depuis longtemps, a été victime d'un développement de la rationalité, de voir les choses d'une manière humaine, rationnelle. Je peux pas vous en faire la présentation historique et philosophique ce matin. Mais le drame de notre Occident, ça a été cette forme d'humanisme, c'est-à-dire de voir toutes choses d'une manière humaine, c'est-à-dire toutes les choses, de les voir d'une manière rationnelle, à partir de notions philosophiques d'abord, puis par des notions scientifiques ensuite, puis des notions de plus en plus humanisantes, ou plus exactement déshumanisantes. Et ça s'est développé jusqu'à créer ce schisme grave et irréparable entre ce qu'est devenu le catholicisme et ce qu'est devenu l'orthodoxie ensuite. Dans le monde orthodoxe, qui n'a pas connu la même évolution et qui avait gardé plus intègrement la tradition spirituelle de l'Église, petit à petit, le jeu politique et économique des relations entre nos continents, si je puis dire, encore que ce soit le même continent, une influence néfaste s'est propagée. Et cet humanisme, qui est la tentation de l'Église depuis toujours, je peux dire depuis Adam, parce que le péché originel, c'est une forme d'humanisme. Ce fléau qui est notre péché capital, si je puis dire, qui est notre tendance de regarder les choses de la terre plutôt que regarder les choses du ciel. C'est développé de plus en plus et l'Occident est devenu en quelque sorte a revêtu un attrait pour l'Orient. Et c'est comme ça qu'il y a eu une lutte qui dure jusqu'à aujourd'hui entre, dans la théologie, entre les tenants de la théologie patristique de tous les pères, y compris de nos pères orthodoxes occidentaux comme Saint Irénée et Saint Hilaire de Poitiers, et d'autres bien sûr, qui a créé un schisme avec les tenants de leur théologie et de Saint Grégoire Palamas, par exemple, avec la présence de l'Esprit-Saint qui transfigure la nature et les personnes, comme nous le savons, et une vision plus humaniste, plus rationnelle d'un salut fait par la réflexion, par la connaissance, par la sagesse humaine. Et ceci s'est développé particulièrement, a connu un paroxysme, si je puis dire, avec la venue de théologiens occidentaux qui sont allés dans ce qu'on appelle l'Orient, à tort bien sûr. Et je pense notamment à un théologien qui s'appelle Pierre Mogila et qui est allé en Ukraine et qui a écrit et ouvert une école de théologie qui a été un renouveau réel pour leur pays à cette occasion-là. Mais Pierre Mogila a amené une théologie scientifique, humaniste, qui était contraire par certains aspects, pas par tous les aspects, mais qui était par certains aspects contraire à la théologie traditionnelle de l'Église. Et ça s'est beaucoup développé. Et tout le monde slave, je ne parle pas du monde hellénique, il était mis sous tutelle de la Sublime Porte, sous tutelle de la Turquie, de l'islam, donc pouvait peu se développer. Mais à ce moment-là, peu à peu, tout ce monde orthodoxe a conçu une manière, si je peux dire, socialiste, sans prendre le terme politique, de l'Église. Et c'est ainsi que petit à petit, on a développé cette idée d'un salut, comment dire, je ne voudrais pas faire trop une caricature, parce que caricaturer une caricature, c'est pas facile. Ils ont petit à petit conçu que notre salut pouvait être un salut qui venait par la foi, par la croyance, disons, donc par l'esprit, par l'intelligence, et non pas par la pratique, par la sèse. Et par la pratique, notamment liturgique, sacramentelle, au sens large du terme. Ce qui fait que, à la fin de l'histoire, ceci a amené encore par contamination de l'esprit occidental. Je suis désolé d'être né ici, mais c'est comme ça. Ça a suscité ou ça a permis le développement des révolutions sanglantes, comme on a su, qui sont des révolutions fondamentales parce qu'elles ont été le choix d'un autre monde. C'était le rejet effectif de Dieu parmi ceux qui menaient le monde, parmi ceux qui étaient victimes, bien sûr. Et jusqu'à aujourd'hui, on est dans ce dilemme-là. Ce qui fait que, petit à petit, on a conçu qu'il n'était pas nécessaire d'avoir une pratique religieuse suivie, régulière, fréquente. Ce qui correspondait d'ailleurs à une autre erreur trouvée partout dans le christianisme, où on pensait qu'on devait communier que rarement parce qu'on était indigne. Indigne, on le sera hélas toujours. Nous sommes fondamentalement pécheurs de par le péché qui est dans le monde, pas par notre responsabilité seulement. Et cette indignité et cette fréquentation des sacrements relativement rares, quelquefois une fois, deux fois par an, quelquefois trois, et qui n'a en partie cessé que grâce à l'intervention de grands saints comme Saint Nicodème, la Giorite et d'autres, qui ont montré la nécessité de la communion fréquente. Ceci a amené une conception selon laquelle la pratique religieuse est une pratique intérieure, mais ne revêt pas d'obligation morale fondamentale. C'est ainsi que, par exemple, j'ai rencontré il y a une vingtaine d'années des personnes, les Slaves ici vont comprendre de quel milieu je parle, puisque ces personnes étaient des descendantes de ceux qui avaient assassiné le tsar Paul Ier. Mais des descendants, hein, c'était pas eux qui étaient les assassins. Et ces gens-là me disaient mettre leur point d'honneur à ne pas venir le dimanche à la liturgie parce que cela portait malheur. Et oui. C'était devenu la conception. Un certain milieu qui était devenu un milieu officiellement orthodoxe, mais pratiquement athée, croyait sincèrement à cela, c'est-à-dire, par l'instigation du diable, pour être tranquille, pour vivre librement, comme des libres penseurs, si vous voulez, arriver à inventer ces élucubrations sur lesquelles on peut suivre le Christ sans être avec lui. Mais ceci, c'est un mensonge. Et ça reste jusqu'à aujourd'hui. Au contraire, des enfants des Hébreux qui accouraient et qui suivaient le Christ, il y a tout un mouvement dans l'Église qui dit « Oui, il faut le suivre, mais il ne faut pas aller avec lui. » Il ne faut pas venir le rencontrer, ça ne sert à rien. Donc on ne communie pas, on ne se confesse pas, on ne va pas à l'église une fois de temps en temps pour garder un lien, pour se donner bonne conscience. Ça. Mais ça, il faut que vous sachiez que c'est un leurre. Ça, c'est un mensonge. Le diable est le père du mensonge. C'est le diable qui nous, qui nous fait croire ces choses-là. Et ça, ça a amené à quoi ? Ça a amené à une dissolution, à une perte de la foi chrétienne, même si on a eu le décorum, si je puis dire, même si on a eu l'aspect extérieur, la beauté liturgique, les ornements, les chants, les traditions, les jeux de Pâques ou le comment dire, l'agneau pascal et je ne sais quoi encore, mais ça a été une écorce qui est restée. L'intérieur s'est vidé parce qu'il n'y avait pas cette rencontre avec le Christ. Ceci, c'est tragique. Et ça a amené quoi ? Ça a amené une nouvelle forme de révolution. Et ce à quoi nous avons assisté depuis 100 ans, disons, dans le monde-là, et le résultat de cela. Ces révolutions ont été dues à l'abandon du Christ pour se fier à notre raison, donc à notre politique. Et on sait les massacres que cela a engendrés. Dieu merci, à travers les malheurs qui ont résulté de cela, beaucoup ont dû fuir. Beaucoup ont dû s'exiler. Et ces exilés, étant dans des pays étrangers, et étrangers à l'orthodoxie, comme notre Occident, notre monde occidental, pour se retrouver, n'ont trouvé que le moyen de l'Église. C'est en se retrouvant à l'Église et en Église qu'ils pouvaient garder certaines de leur tradition. Et sous l'influence, cette fois-ci, de quelques théologiens et de quelques hommes spirituels, ils ont retrouvé non seulement le chemin de l'Église, qui était la seule chose qui leur restait, qu'ils amenaient avec eux, ils ont retrouvé le sens de la foi, le sens de la vie avec Dieu, de la théologie avec un grand T. Et c'est grâce à eux que nous sommes ici aujourd'hui. C'est grâce à eux que l'orthodoxie s'est répandue dans le monde occidental. C'est grâce à eux grâce à leur sacrifice, que nous connaissons l'orthodoxie et que nous avons eu la chance d'être adoptés par elle et de vivre ce que nous vivons. Donc, nous les en remercions dans notre prière. Il y a toujours une action de grâce pour eux, pour leur sacrifice, dont ils ont bénéficié aussi parce qu'eux ont retrouvé quelque chose de la pureté de leur tradition. Mais il reste toujours ce mouvement fondamental d'un espèce de point d'honneur à ne pas trop participer à la liturgie parce que c'est pas bon, parce que c'est pas nécessaire. Eh bien, si, c'est nécessaire. Il est nécessaire d'être à la liturgie tous les dimanches, pas un dimanche de temps en temps, mais tous les dimanches. Vous avez un sauveur, nous avons un sauveur qui est Dieu, qui a partagé notre condition, qui pour nous montrer à quel point il l'a partagé, il en est mort, crucifié. C'est une des pires souffrances, sans aucune condamnation pour quiconque, par amour pour tous. Et celui-là se donne encore aujourd'hui avec nous, il se rend présent avec nous. Certes, juché sur un ânon et pas sur un cheval. Nous préférerions le voir resplendissant que de le voir sur la croix. Et nous préférerions resplendir avec lui plutôt que de monter avec lui sur la croix. Et c'est sur la croix qu'on le trouve. Et si nous voulons le voir rayonnant, c'est pendant la liturgie. pendant notre prière personnelle, nous le voyons crucifié, mais pendant la liturgie, nous le voyons ressuscité, nous le voyons véritablement ressuscité. Donc ce que nous souhaiterions est à notre disposition. Mais si nous restons enfermés dans notre maison à aller cueillir les pâquerettes ou les fraises des bois, évidemment, il n'y a pas de rencontre avec lui. Il faut venir là où il est. Il faut au moins faire cet effort-là. Voilà, je voulais vous dire ça. Je suis désolé d'avoir m'être étalé un petit peu sur l'histoire dont on n'aurait pas grand-chose à faire, mais pour vous montrer que ces mouvements, ces pensées modernes ont des racines historiques. Ce n'est pas simplement des pensées personnelles. C'est une histoire, c'est ancré en nous. Mais en même temps, cette manière dont ça s'est imposé, si on en prend conscience, peut nous montrer aussi à quel point c'est une erreur, à quel point on s'est fait tromper. Et nous, ça peut nous faire décider à changer d'attitude, à changer de pensée et à changer d'attitude. C'est tous les dimanches que nous devons porter intérieurement des feuilles montrant notre exaltation. C'est tous les dimanches que nous devons communier. C'est tous les dimanches ou tous les jours que nous devons nous repentir. C'est tous les jours que nous devons espérer dans le Seigneur. C'est tous les jours que nous devons vouloir le voir. Et c'est tous les jours que nous pouvons véritablement le rencontrer, pas simplement une fois de temps en temps. Le salut après notre mort, s'il n'a pas été préparé par une connaissance de Dieu sur terre, est un leurre. Qu'est-ce que serait que la naissance d'un homme sans gestation pendant 9 mois dans le ventre d'une mère? Ça ferait un robot. C'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. C'est-à-dire un être mécanique, si vous voulez, sans âme. Même biologique éventuellement, mais sans âme. Nous avons une âme. Et c'est cette âme-là qu'il faut développer. C'est cette âme-là dont il faut prendre conscience. Et je vous souhaite à tous non seulement de suivre le Christ aujourd'hui avec des rameaux, mais de cette semaine, cette grande semaine, cette sainte semaine, où nous reproduisons un peu théâtralement les différents événements par lesquels le Christ est passé pendant sa passion jusqu'à sa crucifixion, sa résurrection et son ascension, de leur revivre ça carrément historiquement. Mais je vous souhaite et vous suggère de le vivre le plus intensément possible, que ce soit une marche avec le Christ, une connaissance du Christ. Et même si vos pensées divaguent, si vous êtes attiré aussi par le monde, qu'importe. À partir du moment où vous venez rencontrer le Christ, lui vous rencontre. Et sans que vous en aperceviez, il change, il transforme quelque chose dans votre âme. Il vous donne une force que vous ne sentiez pas au départ. Et si vous vivez intensément cette semaine sainte comme la crucifixion non seulement du Christ, mais la vôtre, comme non seulement la résurrection du Christ, mais votre résurrection, comme non seulement l'ascension du Christ, mais comme votre ascension à vous. Et à ce moment-là, l'Esprit Saint descend en vous et petit à petit, tout au long de votre vie, transforme celle-ci en sa vie. Et que cette marche de la semaine jusqu'à la résurrection pascale ne soit pas simplement la transfiguration d'une semaine de votre vie, mais que ce soit le cheminement de toute une vie. Et quelles que soient nos chutes, nos trahisons, nos abandons, nos oublis, notre mauvaise volonté ou notre mauvais caractère, quelles que soient ces choses humaines dont nous sommes hélas bien pétris aussi, toutes ces choses seront effacées, seront enlevées par la grâce de Christ, par la grâce de l'Esprit-Saint. Ça vaut la peine quand même. Ça vaut la peine de nous fatiguer, de nous lever un peu plus tôt le matin, de faire quelques kilomètres, de tomber tout simplement du lit quand on est juste à côté. Ça vaut la peine de rencontrer celui qui nous donne non seulement la protection pendant les quelques années que nous avons sur terre, mais qui nous donne surtout la protection pour la vie éternelle. Qui ou quoi peut vous donner la vie éternelle? Rien, sauf le Christ, en partageant sa vie, qui, parce qu'il est Dieu, est une vie éternelle. Donc c'est maintenant qu'il faut adhérer à lui pour avoir en partage la vie éternelle. Ne croyez pas que ce soit par intérêt que je vous dise ces choses-là. Pas par intérêt personnel. Mais nous cherchons tous à vivre. Et la vie, c'est ça. La vie qui n'est pas une vie, qui n'est pas la vie de Dieu, n'est pas la vie. C'est une illusion. La seule vie, c'est la vie éternelle. Et comment on pourra connaître la vie éternelle après notre mort, si on n'a pas connu, si on ne s'est pas habitué à la vie éternelle pendant notre vie physique? Donc ce n'est pas par intérêt pour moi, mais c'est par intérêt pour vous, pour que tous nous vivions. Et nous vivions en étant un être unique, une humanité unique. Comme le Père, le Fils et l'Esprit sont un Dieu unique, de manière à ce que nous devenions un aussi avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, auquel reviennent la gloire, l'honneur et l'adoration dans les siècles des siècles.
Amen.